Bonsoir Charles-Cille.
Bonsoir Arnaud.
Vous avez donné envie d'aller dans les jardins ou pas?
Oui, tout à fait.
Bon.
Beaucoup.
C'est déjà, voilà, une auditrice de gagner, mais qui a une place si particulière. Mais vous êtes là ce soir pour nous dire ou pour nous faire entendre cette phrase, notamment « L'avenir de l'art est en Afrique ».
Oui, alors c'est pas moi qui le dis, c'est ce que titrait Télérama la semaine dernière en couverture, alors que l'art africain contemporain est à l'honneur en ce printemps à Paris. L'art contemporain est peut-être de retour en Afrique, mais l'art ancien n'y est, lui, toujours pas. Le 13 mars dernier, la France opposait une fin de non-recevoir aux demandes de restitution du Bénin de certains de ses trésors nationaux. Une demande formulée dans une lettre adressée le 26 août 2016 par le ministre des Affaires étrangères béninois Aurélien Agbenonci à son homologue français et qui rappelait notamment, je cite une partie de la lettre produite par le Journal des Arts, qu'en 1892, à la défaite des troupes du royaume de Danxomé, les armées coloniales françaises en arrivant à Abomey, ont détruit le palais du roi Béhanzin et emporté de nombreux objets extrêmement précieux qui se trouvent aujourd'hui dans plusieurs collections publiques et privées de la République française, notamment au musée du Quai Branly. Jean-Marc Ayrault a donc, la semaine dernière, signifié une fin de non-recevoir à cette requête, invoquant la convention de l'UNESCO ratifiée en 70, fameuse convention mise en application seulement en 97 par la France et qui interdirait, selon le ministère, une telle restitution. Je cite la réponse. « Les biens que vous évoquez ont été intégrés de longue date, parfois depuis plus d'un siècle, au domaine public mobilier de l'État français. Conformément à la législation en vigueur, ils sont soumis au principe d'inaliénabilité, d'imprescriptibilité et d'insaisissabilité. » Peut-être l'État béninois espérait-il un infléchissement de la politique culturelle française en la matière après la restitution en 2012 de têtes maoris à la Nouvelle-Zélande qui a fait date en la matière. Mais en fait, le statut de ces têtes était différent, considéré comme des restes humains. Pourtant, dans le fond, la question symbolique est la même, celle du statut d'objet volé dans les mêmes conditions de violence exercées par un peuple sur un autre. L'an dernier, Louis-Georges Thin, à la tête du CRAN, Conseil représentatif des associations noires de France, avait publié dans Le Monde une tribune appuyant cette demande béninoise, précisément intitulée « La France doit répondre positivement à la demande du Bénin ». Il rappelait que cette demande est une première émanant directement d'un État de l'Afrique subsaharienne et que pour cette raison, elle a une forte valeur symbolique. Dans le vaste contexte de la réparation des crimes liés à l'esclavage et à la colonisation, il rappelait ainsi que selon Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture malienne, 95% du patrimoine culturel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. Cette demande fait suite à une action organisée en 2013 au Quai Branly, justement par le CRAN, pour montrer à la presse tous les objets pillés pendant la période de conquête coloniale. Alors Louis-Georges Thin concluait l'année dernière avec beaucoup d'espoir, espoir déçu aujourd'hui au nom de conventions écrites pour protéger le patrimoine et l'amitié entre les peuples. Comment voyez-vous évoluer cette question dans les années qui viennent ?
Vaste question. Anaëlle Pigeat, pour commencer.
Oui, vaste question, mais une question qui n'est pas tout à fait nouvelle.
Non.
Malheureusement, peut-on dire. Il est certain que le fait que plus de 90, 95, 97% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique soit hors de l'Afrique est un problème. Ensuite, la question est quand même très compliquée. Alors, il y a un argument qui est souvent avancé, qui est que le continent africain ne serait pas en mesure d'accueillir ses œuvres. C'est un argument qui ne vaut pas très longtemps parce que alors d'abord il y a à Dakar par exemple un musée qui est un musée des civilisations noires construit par des Chinois qui est à ce jour terminé et toujours vide et on peut évidemment l'argument qui consiste à dire que les œuvres ont été faites en Afrique et donc peut-être que l'Afrique peut les conserver me semble avoir une certaine valeur. Évidemment, il y a des problèmes dans des musées en Afrique parce que Ebola, l'absence de gardiens, les conditions climatiques, tout ça, d'accord. Mais il faut se souvenir que l'Angleterre n'a pas rendu les marbres d'Elgin au moment où la Grèce a ouvert le musée de l'Acropole. Donc, je crois pas que cet argument puisse être avancé très longtemps. Je crois que finalement, cette question se règle au cas par cas. Il est certain que il est impossible de faire des restitutions systématiques comme le demande Louis-Georges Thin. Il y a des cas de restitution. Alors les têtes maoris, vous l'avez évoqué, c'est parce que ce sont des restes humains. Il y avait le cas d'une statuette Mbumba du Gabon qui a été restituée au Quai Branly, mais c'est parce qu'elle avait été volée. Donc c'est une chose tout à fait différente. Je crois que finalement tout ça ne peut que se régler au cas par cas. Finalement, l'histoire des collections est une histoire de déplacement. Le Louvre est plein d'œuvres italiennes, des conquêtes napoléoniennes. Finalement, Louis Georges Tin a avancé aussi dans sa tribune l'idée que François Hollande a fait un mémorial de l'esclavage. Ça suffit pas. Et une fondation de la mémoire de l'esclavage, ça ne suffit pas, certains. Enfin, c'est peut-être un premier pas. Peut-être que finalement, ça peut passer aussi. Le règlement de cette question peut passer par l'accompagnement de la manière dont ces objets sont présentés dans les musées, par des politiques de prêt. Le Quai Branly a été accusé à plusieurs reprises de ne pas être un très bon partenaire de prêt. Il y a 30 pièces du Bénin qui ont été prêtées en 2006 à la famille Zinsou, mais à la Fondation Zinsou, c'est pas beaucoup, donc peut-être que ça peut aussi contribuer au débat. Je lisais aussi un marchand belge qui proposait de faire carrément une succursale du Quai Branly en Afrique. Ça semble un peu farfelu comme hypothèse, mais au fond, je pense que finalement, la réponse qui n'en est pas une à la question que vous posez, Lucille, est à faire au cas par cas, en fonction de chaque objet, en fonction des degrés d'urgence qui se présentent pour chacun des objets évoqués.
Regarde Florian Guettet sur cette question.
Oui, je partage en grande partie les positions d'Anaël. C'est vrai que ce nœud est inextricable parce qu'il y a presque ce débat, j'allais dire éternel, mais entre le légal et le moral, parce que légalement, effectivement, on a des lois internationales qui ne sont pas ratifiées par le Bénin, mais par la France, donc ça pose aussi la question de la dissymétrie ou du déséquilibre, tandis qu'on a une loi française qui déclare inaliénable tout le patrimoine national, et puis on a un cadre moral, une question morale qui propose que le devoir de réparation face aux crimes liés à la colonisation passe par la restitution et le respect de ce droit inaliénable pour un peuple à jouir de son propre patrimoine, à être au contact de son histoire. Parce que là, ça pose effectivement ce problème-là. Alors ça pose en creux aussi la question de savoir c'est un débat d'actualité, mais quel statut on accorde à la colonisation. Est-ce que c'est un crime contre l'humanité ou pas? Je m'explique, parce que dans les cas de crimes contre l'humanité, de l'extermination par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, les restitutions, on parle vraiment de restitution et ça a une importance de faire ces distinctions, les restitutions sont automatiques, facilitées et il n'y a absolument aucun problème, alors que la colonisation n'est pas encore considérée de la même façon. Donc ça pose véritablement un problème à la fois diplomatique, géopolitique, mais aussi d'éthique des pays. Alors le cas du Bénin, effectivement, est un peu particulier, mais pas tant que ça, parce que finalement, on parlait des Maoris. Ce qui a aussi joué dans la balance, c'est que les Maoris ont des descendants. 14% de la population de Nouvelle-Zélande est encore Maori, donc elle a le droit à jouer à son patrimoine. Et dans le cas des pièces du Bénin, eh bien, il y a encore des descendants de ce royaume de Dahomey qui a été pillé et annexé par la France en 1892. Donc l'argument ne tient pas. Effectivement, moi je trouve qu'il y a un grand paternalisme, d'une façon générale, une sorte de mise sous tutelle. Effectivement, je ne vois pas en quoi on peut dire aujourd'hui qu'il y a des infrastructures muséales qui sont insuffisantes pour accueillir ces pièces et en même temps leur prêter des pièces, notamment par la Fondation Zinsou, Anaël l'a rappelé. Donc il y a forcément là une sorte d'argument un petit peu fallacieux. Et puis il y a cette forme d'ethnocentrisme aussi que je ne m'étais pas rendu compte, mais dans un argument qui est souvent avancé, qui est de dire mais après tout cette pratique muséale et de conservation du patrimoine, elle est eurocentrée, elle est européenne, et regardez, si vous voulez faire la même chose, c'est que finalement vous persévérez l'héritage de la colonisation, ce que je trouve quand même assez hallucinant, comme si cette volonté de prendre soin de son histoire, de mettre en ordre son histoire et d'organiser la pédagogie autour était réservée à l'Occident. Voilà, ça c'est un argument que je juge complètement irrecevable.
Anaël, vous voulez
ajouter ? Non, je voulais dire, oui, ce débat est tellement occidentalo-centré, effectivement, que sa complexité touche aussi à la question des musées universels. Il y a cette déclaration de l'importance et de la valeur des musées universels qui date de 2002, et finalement qui affirme un peu l'inverse tout ce dont on est en train de parler.
En l'occurrence, de l'UNESCO.
Exactement. Et la naissance de tous les musées du Golfe, en tout cas la préparation de tous les musées du Golfe, a commencé par le Louvre à Abu Dhabi, par exemple, soulève une question assez compliqué aussi à cet égard. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on montre? Est-ce qu'on montre ces pièces-là là-bas? Est-ce que c'est une manière pour nous d'affirmer la possession que l'État français aurait de ces pièces ou que le Louvre à Abu Dhabi aurait de ces pièces? Enfin, on croit que c'est la très grande complexité de ce sujet qui est à mettre en avant.
Florian Guettet.
Ouais, même si je rajouterais qu'il y a quand même aussi une question presque de dignité nationale, avec une forme de refus de considérer que les États colonisateurs sont des États de voleurs. Et ça passe notamment par cette distinction donc que j'ai à peine évoquée, mais entre restitution et retour, puisque restitution est fait pour les œuvres qui sont spoliées, volées dans un cadre hors légal, et puis le retour, c'est quand ça a été acquis de façon, on va dire, plus ou moins légale, en tout cas normale, par l'intermédiaire de don ou de legs, et c'est comme ça, en fait, que se sont constituées les collections nationales, et notamment celle du musée Quai Branly. Mmh. Donc, le premier geste, en fait, qu'ils essayent de mettre en place, c'est de dire, mais c'est pas nous qui avons envoyé nos armées pour aller voler, on a juste récupéré et pris soin de votre patrimoine. Donc, c'est vrai que ça ne pose pas tout à fait la question dans les mêmes termes.
Bon, il faut rendre l'obélisque de Luxor, place de la Concorde, à l'Égypte, pour commencer. On sait dans quelles circonstances ça a été pris. Lucille, comment ?
Non, mais la question, c'est quand même, ça pose aussi la question de, justement, cette fameuse propriété inaliénable. Un État est propriété d'un objet d'art, on pourrait très bien imaginer que ces objets aient un statut totalement apatride et qui circulent en fait en permanence en Afrique et partout ailleurs sous une forme. Alors après, il faudrait qu'il y ait des commissions internationales qui régissent et qui, parce que sinon ce serait un gros bazar. Mais il faudrait trouver une solution pour que ces objets-là n'aient pas de nationalité, n'aient pas de
Annelle Pigeon.
Non, et dernière toute petite chose qu'on n'a pas évoquée, c'est les effets de tous ces débats sur le marché. Est-ce que finalement ça peut contribuer à une sorte de frilosité accrue? Est-ce que les possesseurs de ces objets vont les retirer du marché? Est-ce qu'au contraire il faut compter sur des collectionneurs comme les Insous qui vont acheter des œuvres, par exemple le trône de Béhanzin, pour les partager avec les Béninois?
À suivre, comme nombre de sujets de petits salons en fait.